blessé en vous et qui avait besoin d'être un peu déterré, émergé, pour prendre conscience de toutes ces blessures que vous portiez, mais pour aller justement, pour consolider tout ça, pour penser ces blessures et pour aller véritablement vers, vers vous-même au fond. On va continuer à se parler, Charlotte. On marque une pause, le temps des informations. Vous restez en ligne avec, avec moi.
D'accord.
Et on se retrouve après les infos. À tout de suite. RTL. Merci d'écouter RTL. Il est 23h. C'est l'heure de retrouver Julia Van Elst pour les informations. Bonsoir Julia.
Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. À la une, un professeur porte plainte après avoir été giflé et menacé de mort par son élève. C'était à Toulouse. En état de choc, il s'est vu accorder 2 jours d'ITT. L'adolescent âgé de 14 ans est en garde à vue. Il sera déféré demain matin. Mostafa Foura, recteur de l'Académie de Toulouse.
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une illustration de cette violence, malheureusement, qui atteint le milieu scolaire. On n'a jamais laissé passer l'agression d'un professeur. C'est très grave et je pense que cet élève ne l'a pas mesuré parce que je crois savoir que sur les réseaux sociaux, il a publié des choses où il continue, avant l'arrestation, à être fier de ce qu'il a fait. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de la situation. Donc c'est l'institution judiciaire éducatif de montrer à cet élève comme à d'autres la gravité de ce geste. Qu'est-ce que démontre cette affaire? Ça peut arriver à n'importe quel professeur. Il n'était pas plus spécifiquement visé qu'un autre.
Un propos recueilli par Valentin Larquier à Toulouse pour RTL. Et dans les Landes, Kenji Girac est toujours hospitalisé à Bordeaux. Il est tiré d'affaire, c'est ce que dit son manager. Le chanteur doit maintenant être entendu par les enquêteurs. Il a reçu une balle en pleine poitrine dans la nuit de dimanche à lundi sur une aire d'accueil des gens du voyage. Mais les circonstances restent floues. Kenji Girac assure qu'il s'agit d'un accident domestique avec une arme qu'il venait d'acheter dans une brocante. Mathilde Panot, convoquée par la police pour apologie du terrorisme. En cause, un communiqué de la France insoumise publié le 7 octobre dernier après l'attaque du Hamas en Israël. Le texte avait alors fait polémique. Vers un jeudi noir dans les aéroports, vaste mouvement de grève des contrôleurs aériens, de nombreux vols supprimés, 75% à Orly, 65% à Roissy selon les dernières prévisions. Vols également supprimés à Marseille, Toulouse ou encore Nice. La profession conteste la refonte du contrôle aérien et demande des hausses de salaire. La menace d'une grève plane également sur le pont de l'Ascension les 9, 10 et 11 mai. Un mot de foot, Olivier Giroud n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. À 37 ans, l'attaquant du Milan AC vient de signer pour 1 an et demi avec le club de Los Angeles. Il rejoindra la Californie cet été. Il retrouvera son ancien coéquipier en équipe de France, Hugo Lloris. La météo demain, un temps nuageux dans la plupart des régions avec des averses plus fréquentes en cours d'après-midi. Le ciel restera plus dégagé sur le littoral méditerranéen. Côté température, on sera encore en dessous des normales de saison. Le matin, entre 4 et 6 degrés sur le pays, jusqu'à 11 près de la Méditerranée. Près de la Méditerranée, l'après-midi de 8 à 12 degrés au nord, de 12 à 17 au sud. Et pour finir les courses, départ 13h55 à Cordemais en Loire-Atlantique. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 11, le 2, le 5, le 13, le 7, l'As et le 10. Et l'outsider de RTL, c'est le 1 et il s'appelle Hold Up du Pigeon. RTL, il est 23h03 et tout de suite, parlons-nous, continue avec vous Caroline.
Merci beaucoup ma chère Julia. Écoutez, un jour il faudra enquêter sur ceux qui donnent les noms aux chevaux.
Ah oui, j'avoue.
Parce que... Non, mais franchement, hier Tiponche, aujourd'hui Hold Up du Pigeon, quand on voit la noblesse de ces chevaux, leur donner des noms pareils, quand même.
C'est très original comme, comme
oui,
nom.
Oui, c'est un peu ridicule, à vrai dire. Donc il faudrait enquêter, qui sont, de quoi se vengent-ils? Où ont-ils mal? Pourquoi ils donnent des noms pareils? Non?
Enquête sera lancée alors.
Alors voilà, vous lancez ça pour moi à la rédaction.
D'accord.
À tout à l'heure, ma chère Julia.
Bonne nuit sur RTL. RTL, vivre ensemble.
Vous faites vos fenêtres vous-même, Chantal Latsou?
J'adore ça.
Ah oui?
Ah oui, avec un papier de journal.
Ah oui?
Parce que ça ne laisse pas de traces.
Puis c'est vachement.
Et de l'alcool à brûler.
Si tu frottes avec le monde, tu vois plus loin.
Je suis avec le nouvel observateur, ouais. Tu vois mieux.
Ouais. Avec le point, tu casses la vitre.
Oui, mais avec l'express, tu vas plus vite.
Et avec le parisien, avec tu râles tout le temps.
Les grosses têtes, tous les jours à 15h30 sur RTL.
RTL, rire ensemble.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Dans un instant, nous verrons comment apparaissent les taches brunes sur le visage, comment les corriger et les prévenir.
22h, minuit 30,
parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Vous êtes bien sur RTL, dans ce monde où tout va très vite, le soir. On prend le temps de se poser, de se parler, de prendre du recul face à des situations compliquées que vous vivez. Je suis là pour vous, à votre écoute, pour vous proposer mon aide et mon éclairage. Alors je vous invite sans plus attendre à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 et ce jusqu'à minuit et demi. Et puis vos réactions de soutien, d'amitié font du bien à tous ceux qui témoignent. Merci d'être là et de nous adressez vos messages sur notre page Facebook RTL-parlons-nous ou par SMS au 64 900, code RTL 35 centimes par message. Et on vous retrouve, ma chère Charlotte, merci d'avoir patienté. Allô ?
Oui, oui, merci à vous.
Alors, pour résumer un petit peu, on a un peu de l'Arsène, il y a un petit haut-parleur entre-temps peut-être qui a dû être activé, je crois.
Non.
Et parce qu'on entend, j'entends ma voix en retour. Ah, super, il est parti. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vais essayer de résumer un petit peu le début de notre échange, là, avant 23h. Donc, vous avez aujourd'hui 59 ans et vous avez fait un burn-out en fin d'année 2023. Vous nous dites que, comme souvent, c'était dû à tout un ensemble de choses et pas simplement sur le plan professionnel. C'est comme si vous faisiez des malaises, c'est comme si votre corps ne vous lâchait, ne répondait plus. Vous avez été arrêté un mois, vous avez après il y avait les vacances. Aujourd'hui, vous avez repris le travail, mais il vous arrive encore de vous dire, vous vous demandez comment vous allez aller au bout de votre journée. Vous avez fait une thérapie en ligne avec une psychologue qui apparemment a été très constructive pour vous parce que vous avez revisité votre histoire et découvert qu'il y avait beaucoup de traumatismes dans votre histoire qui était là encore finalement actif. Vous n'aviez pas mesuré leur impact sur vous. Et aujourd'hui, vous dites que le travail, enfin, était tout pour vous et vous n'aviez aussi pas d'autre choix puisque vous vous êtes retrouvée très vite seule avec des enfants. Donc, il fallait payer le loyer, élever les enfants. Donc, ce travail était vital pour vous tous. Mais que, au fond, dans votre vie, vous auriez bien aimé être une routarde. C'est pas banal, ça.
Oui, c'est vrai qu'en fait, initialement, il y avait eu un devoir qu'on devait faire pour entrer au lycée. Et je me souviens du devoir que j'avais fait où je m'imaginais parcourir le monde, voyager et après ouvrir une boutique d'objets d'art avec les objets que j'aurais ramenés de tous mes voyages.
Formidable. Oui, c'est... Vous aviez envie d'horizons nouveaux, de liberté. Oui. Mais peut-être est-ce lié aussi au fait que vous me dites que vous avez grandi avec des parents âgés ?
Oui, et puis c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de liberté. On m'a habituée dès mon plus jeune âge à penser pour moi, en fait.
À penser pour vous ?
Oui, en fait, je n'avais jamais de droit de parole ou de libre expression. On a toujours décidé de mes choix, en fait.
Oui, donc on ne vous a pas appris à penser par vous-même, enfin.
Non, parce que sinon je faisais preuve d'originalité.
Oui.
Et donc, voilà, je me suis adaptée et à trop s'adapter, je pense qu'on se perd.
Oui.
Et puis, je pense encore pourquoi maintenant elle a réagi avec retard. Ça, je ne sais pas. Par contre, c'est à découvrir.
Parce que, oui, ça c'est... Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours la réponse à cela. Qu'est-ce qui fait que des personnes qui d'ailleurs ont surmonté des choses terribles, des événements extrêmement traumatiques, ils tiennent, et puis un jour, de l'extérieur, on pourrait dire, toujours d'un point de vue extérieur, que c'est presque un grain de sable qui vient gripper la mécanique.
Mais c'est un cambriolage en fait, moi, qui a tout déclenché.
C'est pas n'importe quoi, un cambriolage.
Ah bon?
Non. Mais non, c'est une effraction. Ça fait effraction. Enfin, non. Comme un traumatisme fait effraction dans le corps, dans la tête. Cambriolage, vous étiez présente au moment du cambriolage?
Non, c'est lorsque je suis rentrée et j'ai fait une sorte d'absence. C'est ça aussi qui a attiré mon attention. J'ai eu un trou noir. Et après, le temps que je revienne à moi, bon, ben, je suis rentrée chez moi, mais j'étais un peu sous état de choc. Mais c'est le choc que ça m'a provoqué qui a attiré mon attention. Je me suis demandé pourquoi je réagissais avec autant de...
Mais ce trou noir, vous l'avez fait en découvrant que vous aviez été cambriolée?
Non, c'est juste en arrivant. Je me suis même demandé si j'avais croisé quelqu'un ou pas, parce que je suis incapable de m'en souvenir. C'est un trou noir.
Et c'était dans la période où déjà vous étiez mal, épuisée?
Oui, je commençais déjà à avoir des symptômes, mais après, ça a été radical parce que je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Oui. Et donc, tout en allant travailler, du coup, bon, c'est vrai que j'ai dû cumuler beaucoup de...
Ah oh ben oui.
J'étais un peu, je sais pas, j'étais raide au niveau du corps. Je sentais que même au niveau esprit, j'étais trop stressée, en fait.
Oh ben, ça fait trop. Oui, oui, oui. Il y a eu trop de... Il y a eu trop de choses qui se sont accumulées. Et puis, un cambriolage, c'est normalement chez vous, enfin chez soi, c'est l'endroit où on est en sécurité, où justement là, on peut, on n'est plus obligé de porter tous ces masques qu'on doit porter pour s'adapter à notre environnement.
Oui, surtout des photocopies de papier, des photos d'identité. Et du coup, j'avais peur à une usurpation d'identité.
Ah oui. Ah oui, c'est pas banal ça. On vous a volé des papiers
Des photocopies, en fait. J'avais toujours par sécurité des photocopies des papiers officiels.
Oui.
Et du coup, bon, après, on se dit, quelqu'un utilise peut-être mon identité, ma photo.
Oui, c'est très stressant.
Oui, on devient un peu parano après.
Écoutez, c'est pas vraiment de la parano. On sait déjà un cambriolage, c'est stressant, c'est traumatique. Et puis on voit assez de reportages sur ce sujet à quel point des personnes qui ont été victimes d'usurpation d'identité sont prises dans des, enfin dans des, c'est kafkaïen. Enfin, ils sont dépossédés de leur vie. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, je reçois déjà beaucoup de messages pour vous et il y a Cathy qui dit, qui vous trouve, et j'approuve, très lucide, réfléchie, authentique. Et elle ajoute, elle est plus dégourdie que moi, Charlotte, parce qu'elle découvre l'émission grâce à un de vos voisins amis, me dites-vous, et vous appelez. Cathy, elle dit, moi qui vous connais depuis plus de 20 ans, j'y arrive toujours pas. Alors peut-être que ça va encourager, motiver Cathy à appeler un soir, je l'espère. Paul, beaucoup de réactions aussi déjà pour Charlotte.
Des gens qui n'appellent pas mais qui écrivent sur la page Facebook de l'émission. Il y a Angélique qui dit « Quand on n'écoute pas notre tête, c'est notre corps qui finit par nous arrêter. Et quand le corps dit stop, il est souvent trop tard. Le chemin est alors long. » Pour remonter la pente et retrouver goût aux choses, avec une thérapie et une remise en question, on en ressort une autre personne. Je vais vous lire aussi le témoignage de Patricia, qui elle a fait un burn-out en février 2022.
Oui.
9 mois d'arrêt maladie, plus possible de me lever, culpabilité, fatigue extrême, donc s'en sont suivis psychothérapie, soins. Oui. Elle a repris, et 9 mois après, elle s'est réécroulée. Elle dit, je n'ai jamais repris. Rupture conventionnelle en décembre 2023. Un burn-out, ça change la vie, mais c'est pas un cadeau si bien emballé que ça, hein, comme beaucoup disent. Moi, j'ai encore quelques séquelles. Elle parle d'extrasystole, de fatigue rapide.
Oui.
Mais j'ai une autre perception de la vie et j'avance en pensant à moi. Je suis aujourd'hui en reconversion professionnelle.
Oui.
Et aujourd'hui, je suis ma priorité. priorité. Patricia, qui vous souhaite bon courage.
On lui souhaite également, bah oui, c'est exactement. Une belle reconstruction, 9 mois, le temps d'une renaissance.
Il y a Nathalie qui dit que le burn-out est d'une violence et d'une brutalité incroyable,
oui.
Mais aussi pour le corps. C'est normal, oui, que vous soyez fragile quelque temps, il faut du repos. Puis, il faut aussi faire autre chose dans votre vie, changer vos habitudes. Ne craignez pas de changer tout votre mode de vie, pensez aussi à vous et à votre corps. Entourez-vous de nouvelles personnes et puis peut-être aussi, évidemment, d'un autre travail, avec un travail sur vous aussi. Vous avez sûrement une idée de ce que vous pourriez faire. Il faut vous donner la chance, aller chercher la confiance qui est enfouie en vous. Il y a Pascal, tiens, qui note d'ailleurs que vous avez une très belle analyse, non seulement du burn-out, mais aussi de votre situation.
Oui.
Je vous souhaite sincèrement d'avancer et de foncer pour réaliser les projets que vous avez, le projet à vous, que vous avez pour vous, elle dit Pascal. Et puis Jean-David, qui conclut en disant « C'est le moment d'en profiter ». Un camping-car, un GPS et partez à l'aventure. Prenez du temps pour vous, n'attendez rien de personne, il est temps pour vous de prendre la route.
Merci. Mais oui, mais je rejoins ce que dit Jean-David et tous les auditeurs. C'est, déjà, je trouve que vous avez une grande capacité d'introspection. Je trouve en, vous décrivez très bien ce par quoi vous êtes passé. C'est enfin avec des mots simples mais choisis. Vous vraiment vous expliquez très bien les choses et quand vous dites aujourd'hui que vous êtes moins dans ce surinvestissement de votre travail, vous portez un regard différent, ce qui est au fond salutaire parce que ça va vous permettre de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que de redonner, de faire de la place à davantage aussi de d'épanouissement de sur le plan personnel et en fait à ce besoin de à cette fantaisie. On sent chez vous une personnalité non conformiste.
Oui, c'est vrai.
Et vous dites quelque chose d'important, que vous êtes très vite adapté pour correspondre à ce que l'on attendait de vous, et ce très jeune, semble-t-il.
Oui, aussi loin que je me souvienne.
Ben oui, être une enfant un peu modèle, entre guillemets, ne posant pas de problème, étant gentille avec ses parents, les prenant en charge, ils ont eu des soucis de santé. Après, au travail, certainement, faire en sorte de donner le meilleur de vous-même, consciencieuse, vous dites cette difficulté à dire non, toujours vouloir faire plaisir. Et vous êtes adapté et suradapté. Et ça a souvent un coût. Parce que quand on est bien obligé, tous autant que l'on est, vous me direz, de s'adapter à notre environnement. Mais quand on se suradapte, on en oublie qui l'on est. Et ce dont on a profondément besoin. C'est-à-dire qu'on se perd de vue et on perd de vue, en fait, son désir.
Oui, parce que des fois, m'alerte, c'est que parfois, j'ai revu des personnes de mon passé.
Oui.
Et qui ne m'ont pas parlé directement et qui ont dit quand on pense à ce qu'elle a survécu, c'est toujours un miracle de avoir envie. Et du coup, je me suis souvent posé des questions.
Ah, oui.
Et comme je n'ai jamais eu de réponse, du coup, je me dis je reviens de loin et en fait, je n'en ai jamais eu conscience.
Oui. Mais aujourd'hui, vous savez ce à quoi vous avez survécu ?
Non, toujours non. Pas. Et je pense que c'est peut-être ça le pire pour moi, de ne jamais savoir ce qui m'est vraiment arrivé.
Vous continuez ce travail de thérapie ?
En fait, j'avais fait une thérapie après mon cambriolage.
Où oui.
Mais je l'avais cessé parce qu'elle me coûtait très cher.
Oui.
Et en fait, d'après la thérapeute, j'avais dû avoir des gros traumatismes étant bébé. Et c'est ce qui se répercuterait dans ma capacité à ne pas pouvoir dire non ou à ne pas pouvoir réagir en situation de danger.
Ouais. Oui, alors on sait aussi que les traumatismes qui surviennent avant l'âge de 3 ans, à l'âge où l'enfant n'a pas les mots encore pour s'exprimer, sont enfouis. On n'a pas de souvenirs avant nos 3 ans. Hein. Mais ils demeurent là et ils s'impriment, et notamment dans le corps. Quand vous dites que ce qui vous interroge, c'est votre corps qui flanche des années après.
Ouais, ben, en fait, je me dis que c'est terrible, parce que je me dis à quelques années d'un retrait, mais en même temps, je me dis que c'était un miracle aussi.
Peut-être que d'ailleurs aujourd'hui, vous me dites, vous avez survécu, vous êtes une survivante, ça veut dire qu'il y a des ressources infinies en vous. Et que peut-être aujourd'hui la priorité est d'aller vers ce qui vous rend vivante, de renouer avec vos désirs. Et cette routarde, cette envie d'explorer le monde.
Mais en fait, c'est vrai que je suis très curieuse des autres et que oui. Mon passe-temps favori, c'est de rencontrer des personnes et de converser avec eux. En fait, je pense que pour moi, c'est la plus belle richesse qui est les échanges.
Oui, vous avez raison. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui montre que, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre histoire, mais que vous n'avez pas perdu foi en l'humain. Que vous êtes avide de rencontres.
Ben en fait, la communication facile, mais par contre, pour me créer des liens, c'est plus compliqué.
Oui, être dans une intimité.
Oui, parce qu'en fait, je suis assez sur mes gardes.
Oui, mais oui, c'est vous vous protégez aussi.
Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de trahisons. En général, j'étais d'un naturel assez confiant et aidant et j'ai eu pas mal de déceptions en retour. Et à un moment donné, ce n'est pas le fait de donner qui pose souci, c'est le fait de ne pas comprendre que parfois, il y a des réactions auxquelles on ne s'attend pas en retour, des mauvaises interprétations, en fait. Et après, on comprend avec le temps que des fois, c'est par rapport à des questions de perception, chacun a sa vie et chacun a son ressenti, en fait.
Vous êtes très indulgente. Les rencontres. On sent que vous auriez pu, vous savez, quand on a vécu des traumatismes ou des carences affectives très importantes dans les premiers temps de sa vie, on peut développer une peur, voire un rejet des autres, être sur ses gardes, avoir du mal à créer des liens. Vous, on sent que vous gardez cet appétit de la vie, cette curiosité, cette indulgence aussi, parce que vous dites, vous avez eu des déceptions, mais vous dites aussi, chacun a son histoire, des ressentis différents. Donc, il y a une grande ouverture et beaucoup de générosité chez vous. D'ailleurs, je reçois un message de Marie-Cécile, qui est une habituée de l'émission, et elle dit « Quelle belle énergie de vie, une belle flamme sous vos douleurs ». Alors elle dit « Vivez, soyez enfin vous, Charlotte, la routarde au grand cœur ». C'est bien résumé ?
Oui, c'est vrai.
Vous dites, quand vous étiez enfant, vous auriez aimé voyager dans cette rédaction, ramener des objets des différents pays que vous auriez découvert. Est-ce qu'il y a une région, un pays qui vous fait rêver, que vous auriez envie de connaître ?
Dans un premier temps, le Canada, je ne sais pas pourquoi, c'est un pays qui m'a toujours attirée.
Oui.
Je vais partir y vivre et au moment où j'ai dû faire les papiers au consulat, j'ai fait une rencontre qui fait que je ne suis jamais partie vivre au Canada. Et des années après, je me dis ça me hante toujours en fait.
Ce rendez-vous manqué avec le Canada ?
Oui, en fait, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une partie de mes racines là-dedans.
Ah, d'accord, donc il y a peut-être une quête un peu identitaire, mais ça reste possible.
Après, c'est vrai que avec le temps, avec l'âge, je suis devenue un peu plus froussin, mais le fait d'oser partir à l'aventure, ça, je crois que je ne suis plus capable de le faire maintenant.
Alors, peut-être c'est ce que vous croyez, vous vous limitez peut-être à ce niveau-là, et puis il y a aussi cet épuisement qui a été le vôtre. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez retrouver une langue commune avec nos amis québécois. Il y a quelque chose de rassurant.
Oui, c'est peut-être leur simplicité qui m'attire.
Aussi, peut-être, oui. Donc ça reste, vous voyez, c'est l'étranger, mais un étranger familier.
Oui, parce que j'avais eu l'occasion de partir vivre à Londres.
Oui.
Et c'est vrai que j'avais rencontré, à l'époque, j'étais très jeune, des Canadiens, et ça m'avait donné envie d'y aller. En fait.
Mais alors, il faut prévoir un voyage au Canada, Charlotte. Mais oui.
En fait, si je osais, parfois, je quitterais tout et je partirais tout de suite.
Alors, peut-être pas non plus vous mettre dans une situation compliquée, parce qu'après, il faut quand même pouvoir avoir de quoi vivre, voyez. Il y a des entre-deux à trouver. Et non, déjà, y aller peut-être le temps de vacances.
Oui, puis, parfois, il faut se méfier des lieux de vacances, que à une époque, j'avais l'habitude d'aller en vacances parfois avec des personnes sur la Côte d'Azur, et lorsque j'y ai vécu pour une formation, ben, en fait, je me suis ennuyée.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, ça. Ça arrive, ce qui est bien pour un temps de vacances, à y vivre, ça peut être tout à fait différent, bien sûr. Mais là, sans forcément vous dire, allez, ça y est, je pars tout, je quitte tout et je pars vivre au Canada, déjà y aller, le temps d'un séjour. Prévoir ça dans un coin de votre tête. Vous qui, en ce moment, avez du mal un peu à anticiper. C'est aussi une façon de renouer avec quelque chose et d'important. Puisque vous dites comme si... Et vous savez, parfois, on a une petite voix qui... Il faut l'écouter, cette petite voix. Hein. Elle ment rarement. Qui dit, il y a peut-être quelque chose dans votre histoire. Donc, si vous en ressentez le besoin, c'est accessible. Et ça vous permettrait de réaliser un peu vos rêves. Il est temps de le faire. Paul ?
Ben justement, regardez, vous parliez d'âge. Eliane, elle a, je pense, elle est dans votre tranche d'âge. Elle dit, oui. Ne perdez pas de vue vos horizons lointains quand vous serez plus apaisé à la retraite. Partez, voyagez,
oui.
Des habitations pas chères dans tous les pays. Bonne route. Eliane, elle est partie 15 jours à New York avec une copine sans parler l'anglais.
Ah, ben alors ça, je l'admire. C'est
magnifique.
Je l'admire, parce que moi je suis jamais allée à New York, c'est ce qui me retient, mon anglais.
Déjà 15 jours, vous voyez. Pas toute une vie, mais 15 jours, c'est déjà
pas mal. Non, mais c'est ça, il faut... Ou peut-être même à ce moment-là, vous pouvez vous renseigner si ça vous angoisse un peu de partir seule. Il y a des agences qui organisent, en vous laissant pas mal de liberté, ça peut être un filet de sécurité autour. Et puis le temps que vous pensez à ça, c'est une façon aussi de rééquilibrer ce déséquilibre qu'il y avait à un moment donné, ce travail, cet hyper-investissement au détriment du reste. Ben aujourd'hui, il faut vous occuper du reste et de vous. Je vous embrasse, ma chère Charlotte.
D'accord.
Et peut-être que comme ça, on recevra un jour une carte postale où vous nous appellerez.
D'accord, pas de souci.
Quand vous serez au Canada ou ailleurs.
D'accord.
Et puis un grand merci à votre voisin, ami, qui vous a parlé de Parlons-nous et qui nous a permis comme ça d'échanger ensemble ce soir.
D'accord.
Merci Charlotte, prenez soin
merci.
De vous.
Merci.
Au revoir.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic.
For a fortnight there, we were forever running to you, so.
Taylor Swift et Post Malone, Fortnite, et cet extrait du nouvel album Événement de Taylor Swift.
RTL. Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne conseil pour les laboratoires Vichy. Alors à quoi sont dues les taches qui apparaissent sur le visage?
Eh bien c'est dû à la mélanogénèse, un processus naturel qui s'accélère avec l'âge et le soleil.
Et on peut corriger ces taches?
Oui, et même les prévenir avec le protocole Lift Active B3 des laboratoires Vichy.
Comment?
D'abord on applique le sérum Lift Active B3, ensuite la crème B3 jours SPF 50 pour protéger la peau des UV.
D'accord. Quels sont les effets?
Eh bien après 2 mois d'utilisation, les taches diminuent de 65% en moyenne.
Super.
Et en plus, les laboratoires Vichy innovent avec la crème nuit Lift Active B3 anti-tache qui est enrichie en niacinamide et rétinol pur. Résultat, au réveil, l'hyperpigmentation est corrigée et la peau est visiblement plus éclatante.
Parfait. Et où trouve-t-on Lift Active B3 anti-tache?
En pharmacie, parapharmacie et sur vichy.fr.
Merci Fanny.
Étude clinique, mesure de la surface des taches brunes, 35 femmes, 2 mois.
RTL Matin. L'œil de Philippe Cavrivière.
Alex Vizorek vous a remplacé toute la semaine dernière.
J'ai écouté,
oui.
J'ai entendu vos rires. Oui. Infidèle, concupiscent, gras.
Les chroniques de Philippe Cavrivière, c'est chaque matin à 7h55 sur RTL et aussi à 8h30.
22h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
23h32, on est à vos côtés jusqu'à minuit et demi et vous pouvez appeler bien sûr le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour me parler de vous, pour réagir à un témoignage, pour dialoguer avec un auditeur, pour partager tout simplement votre expérience avec nous. Avant d'accueillir Anne-Marie qui veut nous parler de sa grande sœur, Paul, tu me disais qu'il y avait quelques petits messages qui étaient arrivés encore sur Facebook.
Justement, je vais rapidement parler de l'expérience de Françoise au Canada, parce qu'elle dit
oui,
le Canada pour Charlotte qui voulait y aller.
Oui.
Le Canada, c'est top. Moi, je suis là-bas depuis 2006 et ça va plaire à Charlotte. Il y a des gros camions partout.
Ah ben oui, c'est comme aux États-Unis. Ah c'est les gros camions, c'est vrai.
Ah voilà.
Bon, Paul, Marc, il a.
Je fais des passes décisives à Marc, moi.
Voilà. Il a... Marc, il a toujours le même camion, toujours le même klaxon, et il s'amuse comme un petit fou. Ah ben, elle pourrait nous appeler.
Françoise.
Ben oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle est partie vivre au Canada depuis 2006? Merci, en tout cas, de nous écouter. On reste son lien avec la France.
Il doit être 15-16 heures là-bas en plus, en plein après-midi.
Ben oui, elle pourrait nous appeler Françoise. Bonsoir Anne-Marie.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Merci beaucoup, merci de m'avoir prise en ligne.
Ah ben je vous en prie, moi je suis là pour vous et je vois que vous vouliez me parler donc de votre grande sœur qui a 69 ans.
Oui, c'est ça, et qui... est hospitalisée depuis maintenant 2 mois et demi.
Oui.
Avec un problème d'alcool qui date de nombreuses années. Et puis, le syndrome de Diogène qui s'est greffé là-dessus depuis longtemps aussi. Et que j'ai découvert le 10 mars à peu près, je crois, ou 10 mars, oui, cette année.
Ah, c'est à la suite de son hospitalisation, vous êtes allée chez elle?
Oui, on est allé dimanche de 10 mars.
Oui.
Aux urgences, parce qu'elle était, elle avait été prise en charge par un de ses anciens compagnons des années 80. Elle était allée se poser quelques jours chez lui.
Oui.
En attendant un rendez-vous de médecin.
D'accord.
Et il m'a appelé en me disant, je ne peux pas garder votre sœur. Elle est malade, il faut qu'elle soit hospitalisée. Donc, on avait prévu d'aller aux urgences le dimanche matin.
Oui.
Et en sortant des urgences où elle a été reçue par l'infirmière et ensuite par un médecin, ils l'ont laissée sortir. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ton appartement? Ça faisait 14 ans, plus de 14 ans que je n'étais jamais allée chez elle.
Oui, elle trouvait toujours une excuse, enfin elle ne recevait pas, comme souvent...
Elle ne recevait personne, même un voisin, même un...
Mais oui.
une copine pour boire un thé ou quoi que ce soit.
Mais comme souvent les gens qui ont ce syndrome de Diogène qui accumulent en fait quantité de choses et y compris au point de créer une insalubrité chez leur domicile.
Là, c'est vraiment. On parle de l'état de sidération quand il y a un attentat, quand il y a des choses comme ça. Mais quand je suis rentrée dans l'appartement.
Oui.
J'ai vraiment été sidérée. J'arrive pas à me sortir de cet état. C'est terrible, hein.
Oui.
On ne pouvait pas rentrer, donc on est rentré de profil. Elle est restée sur le palier.
Oui.
Dans le couloir, allez, 25-30 centimètres de déchets.
Oui, des déchets, des poubelles
Des poubelles, des pots de yaourt, des boîtes de conserve, des pots de bananes, des noyaux d'avocat.
Il devait y avoir une odeur assez insoutenable.
Les voisins n'ont jamais rien signalé.
Oui, parce que parfois, vous avez raison, ce sont les voisins qui signalent.
Oui, je pensais qu'il y avait un problème, mais on a perdu notre mère en fin 2009.
Oui.
Et donc, je ne suis jamais allée chez elle depuis son déménagement à ma sœur en 2010.
Oui.
Donc, je pensais effectivement qu'il y avait un problème, mais je m'imaginais qu'elle était encore dans les cartons, qu'elle n'avait pas défait ses cartons, qu'elle ne faisait pas de ménage, donc il devait y avoir une poussière phénoménale, mais je ne pensais pas du tout à ce problème de vivre dans ces poubelles.
D'accumulation. Oui, vous dites que dès le couloir, en fait, vous étiez obligé de passer de profil, tellement c'était encombré.
Oui, oui. Et puis à faire attention de ne pas tomber, parce qu'il y avait des bouteilles de verre en dessous, donc aller marcher sur des bouteilles de verre qui roulent, sur des canettes, sur des...
Et les propriétaires ou locataires
oui.
Les propriétaires. Et tout l'appartement est dans cet état, j'imagine.
Ah ben le couloir, c'est rien par rapport au reste. Les toilettes étaient bouchées depuis plusieurs mois, m'a-t-elle dit. Donc, je vous passe les détails.
Oui, donc les toilettes... Oui, mais elle ne pouvait même pas faire venir un plombier.
Non.
Donc, en fait, elle faisait à côté, quoi.
Tout à fait. Donc, j'ai trouvé donc, les toilettes au Radada. Il y avait 5 seaux pleins... dans le couloir, je ne sais pas comment elle faisait pour ne pas se casser la figure dedans.
Oui.
Depuis des mois, elle avait des gastro à répétition avec des fièvres phénoménales. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors, c'était le stress, c'était un coup de la chaleur, un coup elle avait pris froid. Mais ça n'avait rien à voir avec ça. C'était l'état d'insalubrité dans lequel elle vivait.
Bah, évidemment, toutes les bactéries, bien sûr. Oui, oui.
Dans sa chambre, il y avait 80 centimètres de poubelle à côté de son lit, parce que finalement, son lit était devenu sa pièce principale, hein, où elle vivait.
Oui, d'accord. C'est là où elle se réfugiait.
Voilà, c'est ça. Donc, les bouteilles d'alcool, les canettes de bière.
Oui, elle s'alimentait plus tellement, d'ailleurs, certainement.
Non. Oui. Elle faisait, c'était... des paquets de gâteaux à apéro, des trucs qui se mangent, voilà, comme ça, mais...
Oui, rapide, oui, elle ne pouvait pas faire de cuisine, j'imagine, cuisine et salle de bain ne sont plus en état.
Non, je vous dis, je vais passer les détails, parce que c'était vraiment...
épouvantable, donc ça,
C'était le dimanche, le lundi matin, j'ai appelé son médecin traitant, parce qu'elle a fini quand même par me donner le nom.
Oui.
Du médecin traitant, donc en arrivant à mon travail, j'ai appelé directement, il devait être 8h30, 9h moins le quart, à 14h, elle était hospitalisée.
Bah oui,
donc, voilà, là, ça fait 2 mois et demi, donc elle est dans un service de dépression.
Oui.
Alors, je ne sais pas, au niveau du traitement, bon, je pense qu'il traite l'alcool.
Oui.
Hier, on a avancé un peu parce que elle a proposé à l'hôpital psychiatrique. Enfin, ils lui ont demandé ce qu'elle voulait faire.
Oui.
Et elle a répondu qu'elle voulait trier.
Oui, donc, c'est pas possible au vu de ce que vous me dites là de oui. l'état de son appartement, elle ne sera pas en mesure de.
Oui, et moi tellement sidérée, dans les jours qui ont suivi la première visite, je me suis dit je vais m'en occuper. Mais même en m'en occupant, y allant tous les week-ends parce que je travaille encore, en y allant tous les week-ends, en y passant mes vacances, toute seule, c'était insurmontable.
Oui, mais je vous comprends. C'est pas possible seul. Oui, oui, non, mais vous avez raison. C'est insurmontable. C'est un coup à vous, vous épuisez, tomber malade, vous déprimez. Ben, non, il faut faire venir une entreprise. Comment ?
Là, je suis tout ça. Oui, oui, mais elle ne veut pas.
Ah, mais non,
elle
mais.
Elle ne veut pas.
Oui, mais ça fait partie de sa maladie, vous savez, Anne-Marie. Les personnes oui, sont oui. souvent face à, enfin, un refus déjà d'aide. Elles ne voient pas la même réalité que vous.
Alors, ce qu'ils ont fait, ils l'ont emmené une première fois. Il y avait un infirmier, l'assistante sociale, oui. je crois, et elle, oui. pour qu'elle prenne la notion des choses, oui. qu'elle ait une notion de ce qui se passait. Bon, visiblement, ça s'est pas trop mal passé. Moi, on m'a demandé d'y aller une fois ou deux avec elle, ce que j'ai encore fait hier. Donc, on a déblayé.
Il vous laisse faire ça toute seule ?
Oui, avec elle.
Oh non, c'est pas adapté. Hein.
Alors, ça fait peut-être 14-15 ans qu'elle avait rien fait de physique.
Oui, c'est pas possible. Et puis d'abord, c'est plein de germes. Enfin, c'est,
oui, bah, c'est... Moi, j'ai mis des gants, hein, je vais vous dire.
Ah, bah, il faut mettre des gants, bien sûr.
Des gants, oui, mais. Des courants d'air.
Mais en fait, je suis un peu effarée qu'on vous laisse seule.
C'est effrayant.
Ben, je suis un peu effarée qu'on vous laisse seule face à cette situation parce que vous me dites, enfin, votre sœur, elle peut pas trier, elle en est incapable.
Moi, je prends le taureau par les cornes. Hein.
Oui, vous jetez en fait.
On a jeté beaucoup. Hier, j'ai dû jeter peut-être 25 kilos de revues style Paris Match détective,
oui, oui.
qui n'étaient pas ouvertes depuis 3-4 ans.
Mais oui. Oui.
Mais je ne veux pas les jeter, je veux les garder. Je lui ai dit, oui. tu vas les lire quand ? Tu as de la lecture pour des années, là. Et elle ne lit pas, elle ne s'intéresse
non.
à rien. Donc,
non, elle ne peut pas.
Donc, je vais faire descendre les cartons, parce que oui. moi, je ne peux plus porter, j'ai un problème à une épaule. C'est, on dit qu'on en a plein le dos, hein, mais je pense que c'est un peu ça
ah bah
pour
oui,
moi.
Oui, il y a de quoi, oui.
Donc, on a bien avancé, parce que j'ai trouvé une entreprise qui est venue déboucher les toilettes, déjà. Bon, c'est toujours dans le même état, mais au moins on peut tirer la chasse d'eau, ce qui est déjà un grand pas de fait.
Ben oui, au niveau des germes et autres, oui.
Les germes, n'en parlons pas. Hein. Là, c'est plus des germes. C'est,
le plombier, vous l'aviez prévenu, j'imagine.
Oui. C'est même pas un plombier, hein. C'est une entreprise spécialisée dans oui. les canalisations.
Ben
parce
oui.
qu'un plombier ne le fait pas.
Hein. Ben non, dans le oui. Oui, il y a des même la mairie hein, peut conseiller des entreprises qui viennent. Là, c'est une question de salubrité publique. Hein, enfin.
Oui. Ben là, j'ai carrément appelé mon plombier pour prendre rendez-vous pour mon entretien de chaudière et j'ai demandé. Donc, il m'a renvoyé auprès d'un de leurs collègues qui fait ça. Et je suis vraiment tombée sur une entreprise. Super, c'était deux jeunes d'une trentaine d'années, 30-35 ans, qui ont été hyper compréhensifs pendant le jugement, parce que moi j'ai honte, si vous saviez comme j'ai honte.
Je comprends, mais vous savez, c'est là où il existe même aujourd'hui des entreprises qui se sont spécialisées,
oui.
et souvent les mairies ont des coordonnées, parce que malheureusement, c'est une pathologie qui peut relever de la psychiatrie, et où en fait, seuls les particuliers comme vous, les proches, sont complètement démunis, parce que c'est tellement encombré, il y a des germes, des risques de contamination, et il faut désinfecter. Et donc, il y a des entreprises qui ne font pas que ça, mais elles se sont aussi spécialisées. Je crains que seule vous ne puissiez y arriver ou vous allez vous épuiser.
Bah là, de toute façon, hier c'était la deuxième journée, donc moi j'arrête.
Oui, oui.
Elle avait perdu ses clés de voiture, elle a eu une chance phénoménale. On a retrouvé les clés de voiture au milieu des poubelles. Donc, l'hôpital lui a proposé de y aller, elle, toute seule, faire le travail.
Oui, mais c'est ce qui m'étonne, vous voyez, que l'hôpital... que l'hôpital lui propose seul, enfin... C'est presque... les personnes, vous le dites souvent, les personnes... Alors, il y a des degrés, hein, et on voit, au vu de ce que vous me décrivez, là, de la situation de votre sœur, qu'on est à un seuil très, très élevé. En plus, il y a le problème d'alcool derrière. Et les personnes vivent dans... Elles sont recluses. Elles sont recluses, vous voyez, vous dites depuis 14 ans, vous ne pouviez pas aller chez elles, parce qu'elles restent conscientes, elles sont dans le déni, elles ne peuvent pas jeter, elles sont dans l'impossibilité, vous voyez, poubelles. Donc on ne peut pas la laisser seule face à ça. C'est remettre le nez dans ses difficultés. Elle ne peut pas, votre sœur, faire face.
Je vous coupe, parce que le pire, c'est que non seulement elle vivait dans ses poubelles,
oui.
Mais en plus, elle allait dans les poubelles de son immeuble,
oui.
Récupérer des trucs qu'elle remontait chez elle. Donc les deux sont cumulés.
Oui, on a un niveau très élevé. Vous voyez, c'est-à-dire
c'est un diogène, comme je dis en essayant de sourire, taille XXXL. Hein. Mm.
Oui, si vous dites que... Oui, parce qu'il y a des degrés, il y a parfois des symptômes d'accumulation, on voit beaucoup des revues, des choses comme cela. Le stade au-dessus, c'est garder évidemment les poubelles, hein, c'est-à-dire...
elle n'avait pas de poubelle dans son appartement.
Ben non, elle n'avait même plus de toilette.
Elle n'avait pas de poubelle, elle n'avait plus de toilette, elle n'avait plus de douche, puisque le bac à douche est fendu. Mmh. Voilà, donc... ces dernières années, elle se lavait en pièces détachées dans son lavabo.
Oui.
Mais la première fois où je suis allée dans l'appart, donc le 10 mars, je me suis bien rendu compte que le lavabo, il n'avait pas été utilisé depuis un moment. Donc elle ne se lavait plus, elle ne mangeait plus. C'était grand temps qu'en fait, elle se fassait aider par son...
Il fallait qu'elle soit hospitalisée, oui, heureusement.
Oui, il fallait qu'elle soit hospitalisée, parce que ça aurait fini mal, hein, je pense.
Mais alors là, elle est où, votre sœur ?
Donc, elle est en psychiatrie.
Ah, d'accord, elle est toujours, oui, bien sûr.
Oui, dans un service pour la dépression.
Oui, bien sûr, oui.
Donc, depuis le 11 mars.
Oui.
Je suis un peu perdue dans les dates, c'était un lundi.
Ça
doit être le 11 mars.
Oui. Oui, mais...
J'y vais de temps en temps, mais j'y vais pas trop souvent, parce que moi, ça me bouffe.
Ça vous angoisse? Ça vous déprime?
Je suis hyper mal, en plus. Bon, je travaille, donc il faut être à 200% au boulot.
Oui.
Et on ne fait pas de cadeaux, hein, donc voilà. Je suis sous l'exomie, parce que...
Vous êtes en état de choc depuis. Vous n'aviez pas réalisé qu'elle était dans un état aussi dégradé.
C'est le deuxième week-end, quand je suis retournée, que j'ai pris conscience de l'état de l'appartement, de sa chambre ou devant le lit. J'ai commencé à... Parce qu'elle me disait que ces clés de voiture pouvaient être là, donc j'ai commencé à essayer de farfouiller dans les poubelles. Il y avait alors je ne sais pas, c'était du linge qui était trempé et qui avait pourri. Mais quand je dis pourri, c'était pourri. C'était pas un petit peu de moisi.
Oui.
C'était pourri. On prenait un morceau de tissu, on tirait dessus, ça se déchirait, c'était noir, ça se déchirait.
Non, c'est épouvantable.
Donc ça se fait pas en 15 jours.
Non.
Ça se produit pas en 15 jours, ça. Donc ça date de plusieurs années. Donc il y avait des asticots, il y avait des milliers de petites mouches, il y avait une boîte de pizza où ça grouillait dedans parce qu'il restait un bout de pizza, enfin, puis elle achetait des tas de trucs, là, ça, il y a eu pas...
Et c'était dans la chambre, vivait.
Oui, c'était sa pièce de vie.
Ouais.
Puisqu'elle n'avait plus accès à la cuisine, elle se faisait même plus un thé, elle regardait plus la télé Elle n'avait même plus une chaise disponible.
Oui, elle est à un stade extrêmement grave. Il peut y avoir peut-être... Alors, il y a le problème avec l'alcool, mais il peut y avoir une pathologie psychiatrique derrière. Je ne sais pas. Vous avez rencontré l'équipe qui la suit, déjà, Anne-Marie, je trouve que... Vous pouvez pas seule faire face à ça. Vous allez vous rendre malade, vous. Vous voyez, vous dites...
Vous savez, ça fait 55 ans qu'elle me pourrit la vie.
Ah bon ?
Donc, elle a commencé à boire en 75 à peu près.
Oui, d'accord.
Quelques années après la mort de mon papa.
Oui.
De notre papa.
Oui.
Et puis, maman buvait à l'époque aussi.
Oui.
Donc,
oui, c'est très lourd.
J'ai grandi. J'ai eu une enfance dans l'alcool, une adolescence dans l'alcool, une jeunesse dans l'alcool.
Oui.
Donc...
Ça vous replonge dans tout ça, c'est épouvantable pour vous.
Oui, oui, oui.
Non, il faut. Non, mais Anne-Marie, il faut vraiment. Vous pouvez pas. Là, y retourner les week-ends, c'est. Enfin, vous allez vous rendre malade. Vous êtes, voilà, d'ailleurs, voyez, vous me dites, vous êtes sous l'exomil, vous pour tenir, c'est pas possible.
Non. J'ai un problème de sommeil, mais là, ça ne.
Non, là, il va falloir employer les grands moyens et voir avec l'équipe. Enfin, ils sont venus, ils se sont déplacés, ils ont vu l'état, l'ampleur qui reflète l'état de délabrement dans lequel est votre sœur. Voyez, on est et que seul vous ne pouvez pas y faire face. Et je crains, au vu de ce que vous me dites, que votre sœur ne soit plus à même de vivre seule chez elle. Vous savez, c'est une pathologie qui est très fréquente dans plus on avance en âge et les femmes sont plus touchées, mais et souvent d'ailleurs ce qui se passe c'est un moment, un placement dans un EHPAD, enfin au vu de ce que vous me dites, alors je pense que votre sœur n'est plus à même de, elle retournerait dans un appartement que vous videriez, que vous remettriez à neuf en quelques mois. Ça reviendrait.
Oh oui, il faudra pas des mois. Hein.
Il faut voir avec. Vous avez rencontré les médecins qui s'occupent d'elle.
Le lundi après son hospitalisation, donc j'ai eu un rendez-vous avec l'assistante sociale.
Voilà, oui, c'est bien.
Elle a laissé parler ma sœur. Ensuite, elle m'a demandé ce que moi j'en pensais.
Oui.
Donc évidemment, ma sœur minimise. Hein, Les problèmes d'alcool, ça date de janvier, mais pas de janvier 2024, hein, de janvier, pour moi, des années 75.
Oui, c'est ce que vous me dites, oui.
Voilà. Donc, j'ai réussi à avoir l'assistante sociale.
Oui.
J'ai demandé à avoir un rendez-vous, même en présence de ma sœur, avec le psy.
Oui.
On m'a dit que c'était pas possible. J'ai renvoyé un message, un mail à l'assistante sociale en parlant de curatelle.
Oui, oui.
Je n'ai pas eu de réponse. J'ai croisé une infirmière il y a 15 jours, 3 semaines.
Oui.
Quand je partais, parce que je lui lave son linge, donc je venais de lui ramener son linge. Je suis tombée nez à nez avec cette infirmière, donc on a discuté en présence de ma sœur. Hein. Donc leur protocole à eux, c'est donc j'aille l'aider.
Non.
Mais là, moi, je vous dis, j'arrête.
Mais l'aider quoi ? À déblayer l'aider l'appartement ?
L'aider
Non, c'est pas adapté.
Ensuite, moi, je vous dis ce qui m'a été.
Oui, oui, non, mais je vous crois, donc, mais c'est. Est-ce qu'ils n'ont pas pris mesure de la situation, là ? Donc, il faut faire des photos de l'appartement.
Je peux vous en envoyer, ils vont en avoir une trentaine sur mon téléphone.
Non, vous ne me les envoyez pas à moi, vous les montrez à l'équipe médicale. Il faut dire voilà, et vous dites que votre sœur est dans ce problème d'alcool depuis les années 75. Enfin, je pense que et puis d'abord, je vais vous dire Anne-Marie, puisque déjà ils ne vous reçoivent pas, alors que vous êtes sa seule famille aujourd'hui.
Oui.
Bon, donc je suis désolée, mais elle n'est pas dans le cadre d'une thérapie où effectivement il y a la confidentialité. Il s'agit pas, c'est pas ce que vous demandez de savoir les séances. On n'en est pas là. C'est dans le cadre d'une hospitalisation, c'est demander à rencontrer le médecin responsable pour établir une suite. Enfin, c'est pour votre sœur. Faire un peu un état des lieux, lui décrire un peu les antécédents, l'historique de l'histoire de votre sœur. Et Enfin, vous voyez, là, c'est comme si elle était dans un syndrome d'accumulation, mais depuis quelque temps lié à un événement réactionnel, peut-être à un décès. Bon, mais oui. Dans ce que vous me dites, on n'en est plus là. On en est au vu de ce que vous décrivez de l'état de l'appartement. Enfin, si d'ailleurs elle n'était pas allée chez cet ami voisin, un jour votre sœur, on aurait pu la retrouver décédée dans l'appartement. Enfin,
oui, sans doute. Bon, oui.
Voilà. Oui. Enfin, je trouve. Et peut-être qu'à un moment, il va falloir dire. Mais enfin, c'est de la non-assistance. C'est pas possible. Quand vous parlez de curatelle, vous êtes dans le vrai là. Bien sûr, donc elle là, n'est plus, malheureusement, elle n'est plus à même de.
Non, tout à fait.
De s'occuper d'elle. Il faut qu'elle soit prise en charge.
Donc là, on a passé deux journées complètes de 10h du matin à 17h.
Vous allez vous épuiser.
18h.
Non, c'est pas possible.
À déblayer. Ensuite, elle est censée, d'après l'hôpital, elle est censée y aller toute seule.
Non, mais
soit par le bus, soit avec sa voiture.
Mais excusez-moi, mais ils sont à côté de la plaque.
Continuez à trier. Et ensuite, on fera des devis.
Enfin, non. C'est non, Anne-Marie, pardonnez-moi, mais là. Elle est en service de psychiatre. Non, mais je vous crois. Là, encore une fois, je ne remets bien sûr pas du tout en cause ce que vous me dites. Ce que je trouve fou. C'est que on vous parle de devis, que votre sœur elle doit y aller nettoyer. Il va falloir, écoutez, puisque vous avez fait des photos, vous les faites développer et vous demandez un rendez-vous. Vous revoyez l'assistante sociale, vous dire voilà où on en est là. Enfin, je veux dire, il faut un déni ou quoi de la situation. Voilà l'état de l'appartement. Enfin, ma sœur est malade depuis des années. Donc c'est même pas faire un devis. Enfin, il va falloir une benne, il va falloir tout nettoyer, tout benne, désinfecter.
Là je vous assure qu'on en a déjà mis. Déjà moi le premier samedi, j'ai déjà vidé les seaux de voilà.
Ben oui.
Vous
leur dites.
Je me suis occupée comme j'ai pu. Fallait avoir le cœur accroché. Bon.
Ah oui, ben oui.
J'ai vu pire, mais enfin, arriver à 62 ans, à un an de la retraite et puis être obligée
c'est
de.
C'est très pénible. Ça, mais vous allez vous épuiser. Et puis vous voyez, je comprends que vous soyez dans cet état-là. C'est donc extrêmement ensuite, angoissant, déprimant. Enfin, votre sœur, elle a besoin de soins, elle a besoin d'une structure autour d'elle. Elle n'est plus en état de revenir dans son appartement. Enfin, c'était, vous voyez bien l'état de sa chambre, c'était l'alcool, elle mangeait des gâteaux, elle vivait au milieu de vers, de détritus, d'excréments.
Je me suis amusée, entre guillemets, à compter le nombre de bouteilles de vin que j'ai mises à la benne, au recyclage, il y en avait 111. Ouais. 111 bouteilles de rosé, de whisky, de planteur.
Vous avez vu avec son médecin, puisque vous avez vu le médecin traitant, et il faudrait que vous fassiez alliance avec lui, qu'il contacte l'hôpital en disant, écoutez, pour Madame Intel, il va falloir prendre une décision. Et je trouve que votre demande de curatelle est tout à fait légitime.
Oui.
Il faut.
En plus, l'hôpital est censé contacter des entreprises. Là, si j'avais contacté personne, les décès seraient toujours bouchés.
Il faut voir là, avec l'assistante sociale. Ils ont déjà ils connaissent ces situations. Enfin, c'est pas vous qui pouvez, et encore moins votre sœur, puisque votre sœur, elle ne peut pas. C'est même pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Vous me dites qu'elle allait. Outre les poubelles qu'elle entassait chez elle, depuis, elle allait dans les poubelles de l'immeuble ramener les détritus. Donc, c'est insensé qu'on vous demande et qu'on demande à votre sœur d'aller trier. Enfin, non, c'est pas.